Le journal présenté par Maxime Fayolle.
Bonjour à tous. C'est parti pour les élections européennes en France. Les bureaux de vote ont ouvert il y a une heure. 79 eurodéputés sont à élire sur les 751 du Parlement européen. Une élection qui est dans certains pays l'occasion de faire coup double. Exemple en Espagne où les scrutins municipaux et régionaux se déroulent également aujourd'hui. L'enquête sur les modalités de l'attaque au colis piégé à Lyon vendredi progresse. Des traces d'ADN ont également été retrouvées, mais le suspect, lui, reste introuvable. Et direction la Croisette pour le palmarès du 72e Festival de Cannes. Pour la première fois, c'est un Coréen qui l'emporte, Bong Joon-ho, pour son film Parasite. C'est la deuxième plus grande élection au monde après les législatives en Inde. 427 millions d'électeurs sont appelés à voter pour ces élections européennes aujourd'hui. Au total, il faudra élire 751 eurodéputés. Une finalité commune, Isabelle Lapéry, et pourtant des modalités de vote qui varient beaucoup d'un pays à l'autre.
En France, on vote pour des listes bloquées à accepter d'emblée sans modification. C'est un cas assez rare, car dans la plupart des pays, il est possible de rayer un ou plusieurs noms. Au Luxembourg, on peut même choisir de mélanger des candidats inscrits sur des listes différentes. L'âge minimum pour postuler n'est pas le même partout, 18 ans en France, 25 en Italie. Et pour être élu, là encore, les règles sont très variables. Il faut 5% des voix en France, mais 4 en Suède, 3 en Grèce. En Allemagne, comme dans une dizaine d'autres pays, il n'y a même aucun seuil, ce qui veut dire qu'avec 1% des voix, il est possible d'entrer au Parlement européen. C'est notamment pour cette raison que Yanis Varoufakis, l'ancien ministre grec des Finances, est candidat, non pas en Grèce, mais en Allemagne. L'uniformisation de la procédure électorale a beau figurer dans le traité de Rome de 1957, elle n'a jamais été acceptée, faute d'unanimité. La seule chose qui rassemble ces 28 élections différentes, c'est finalement le mode de scrutin, la proportionnelle, qui permet de rendre compte de tout l'éventail des sensibilités politiques, mais pas de dégager de majorité. Autre point commun, aucun eurodéputé ne peut cumuler sa charge avec un mandat national.
Isabelle Lapéry, en France, il vous faudra trancher aujourd'hui entre 34 listes proposées au scrutin qui a débuté il y a une heure. Et si cela peut vous paraître complexe, imaginez que certains de nos voisins européens doivent combiner ce vote des européennes avec d'autres élections. En Belgique, par exemple, il y aura des législatives et des régionales en même temps. En Espagne, il s'agira des municipales et des régionales. De quoi attiser parfois la confusion, comme l'a constaté Julie Pietri dans la capitale espagnole.
Accrochés aux lampadaires de Madrid, les affiches électorales présentent les visages des candidats de tous bords. Mais cet homme barbu, là, vise-t-il la mairie ou le Parlement européen? Pour le savoir, mieux vaut avoir un certain goût de la politique. Si j'ai une idée assez claire des candidats locaux, plaisante Sarah, étudiante en psychologie, je vous avoue, si je suis sincère, que je n'ai aucune idée de qui se présente pour les européennes. C'est la vérité. En Espagne, pays où 83% des habitants se sentent, selon un récent sondage, citoyens de l'UE, le débat local a quand même mangé celui sur les Européens.
La municipale.
Les municipales, c'est ce qui intéresse Fernando, 53 ans. Parce que c'est là que je vis, dit-il, et que c'est là que se trouvent les solutions. Il n'y a pas eu de vraie campagne pour l'Europe ici, tente d'expliquer Jesus, 28 ans. Les Européennes sont restées au second plan, mais elles sont là, et puisqu'on va voter pour les élections locales, on va voter pour tout en même temps. Ça va augmenter le taux de participation. Moi, par exemple, je vais voter pour tout et fêter la démocratie. En cas de Brexit, l'Espagne gagnerait 5 députés au Parlement européen et devenant 4e pays de la zone, elle pourrait, après des années de discrétion marquées par la crise, prendre toute sa place en Europe.
Le reportage à Madrid de Julie Pietri pour France Culture. À Lyon, ces élections européennes vont se tenir avec un suspect dans la nature. L'homme soupçonné d'avoir déposé un colis piégé vendredi après-midi devant une boulangerie n'a pas encore été retrouvé. De nouvelles photos ont été publiées, mais elles n'ont pas permis d'avancer sur l'identification de l'individu, Emmanuel Leclerc.
C'est l'espoir numéro un pour l'instant des enquêteurs des services antiterroristes pour arrêter ce suspect qui s'est échappé hier après l'explosion de la bombe dans le cœur de Lyon. Espérer qu'un signalement permette de le localiser. Les enquêteurs en ont pour l'instant recueilli une dizaine, mais cela n'a pas permis de le localiser. Le souci, c'est que ces nouveaux clichés diffusés dans les médias et les réseaux sociaux montrent toujours un homme sur son vélo avec son short, avec cette fois malgré tout un sac à dos noir sur le dos, mais la tête est toujours très bien dissimulée. Du côté des experts de la PTS, la police technique et scientifique, on a réussi à isoler un ADN sur un morceau du sac qui contenait l'engin explosif, mais un extrait d'ADN qui, selon des sources proches du dossier, n'aurait pas encore parlé. Aucune identité ne serait donc sortie des fichiers des services antiterroristes et de la police judiciaire. Enfin, les enquêteurs ont également identifié assez rapidement des résidus de l'explosif utilisé et il s'agirait bien de TATP utilisé par le passé en France lors des attentats à Paris et en Belgique à Bruxelles.
Les précisions d'Emmanuel Leclerc. Un peu plus de 12 000 gilets jaunes dans les rues françaises hier, le plus faible total depuis le début du mouvement selon les chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur. Les gilets jaunes ont estimé leur nombre, eux, à 35 000 hier. Plusieurs centaines d'entre eux se sont donné rendez-vous à Amiens, lieu de naissance d'Emmanuel Macron. Plusieurs dizaines de Black Blocs étaient également présents dans la manifestation. Julian Assange sera cette semaine, s'il est extradé vers les États-Unis pour y être jugé. Une nouvelle audience a lieu jeudi pour le fondateur de Wikileaks, poursuivi pour avoir publié des informations sur l'armée américaine. Une divulgation de secrets d'État que les États-Unis veulent punir et qui pose énormément de questions sur la liberté de la presse, sur la capacité désormais des lanceurs d'alerte et des journalistes à pouvoir informer librement, Thomas Larabi.
Pour Édouard Perrin, journaliste d'investigation et membre du collectif Informer n'est pas un délit, cette affaire dépasse désormais largement le cas de Julian Assange.
C'est clairement une attaque inédite du pouvoir américain contre la révélation d'informations classifiées des secrets d'État. Et chaque fois qu'on a publié des documents qui ne devaient pas être publiés, on savait qu'on était protégé aux États-Unis notamment par le premier amendement. Et ça a été souvent, sinon un refuge, tout au moins une garantie. Et donc, à cet égard, on pourrait imaginer très facilement que n'importe quel autre média d'information américain, voire étranger, qui publierait le même type d'information, serait poursuivi pour les mêmes raisons. Quoi.
Football Leaks, Panama Papers, avec les nouvelles technologies de data et la constitution de consortiums de journalistes, les révélations prennent de l'ampleur et donc font peur, selon Édouard Perrin.
Une fuite peut très vite révéler les millions de documents. Donc après, forcément, ça démultiplie aussi les réactions à ce qu'on dévoile. Et on voit que un peu partout, chez les dirigeants, naît une envie de caporaliser et de contrôler, évidemment, la diffusion de l'information. C'est le cas aux États-Unis, c'est le cas dans une autre mesure en Europe et en France, qui jusque-là étaient des modèles de protection de la liberté d'expression et la liberté d'informer.
La semaine passée, 8 journalistes français ont été convoqués par la DGSI pour avoir enquêté sur l'affaire Alexandre Benalla et l'utilisation d'armes françaises dans la guerre au Yémen.
Le reportage de Thomas Larabi pour France Culture. Le 72e Festival de Cannes a livré son verdict hier sur La Croisette. La Palme d'Or est revenue au réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho pour son film Parasite, qui raconte un drame familial mais aussi qui traite d'inégalités sociales. C'est le premier sud-coréen à obtenir la Palme d'Or. Bong Joon-ho, une star du cinéma sud-coréen, et a gagné hier la reconnaissance de ses pairs. Yann Bertrand.
Il n'y avait qu'à écouter et regarder les journalistes sud-coréens l'accueillir après la cérémonie. Un maître, un héros, une véritable star habituée des cimes du box-office sud-coréen avec Memories of Murder ou The Host, Bong Joon-ho, qui sait de qui tenir.
Je suis toujours très inspiré par le cinéma français.
Parasite est une merveille d'alternance, plusieurs films en un, l'histoire de deux familles qui s'entremêlent, l'une venue des bas-fonds, l'autre des nouveaux riches, chacune hébergeant des parasites de la société à sa façon. Bong Joon-ho fait du burlesque, de l'horreur, du thriller, de la satire politique, tout cela au même niveau. Il revendique ce message évident dans une société sud-coréenne de plus en plus inégalitaire.
Il y a évidemment un message à travers ce film, mais je pense qu'il y a surtout une angoisse pour l'avenir. Est-ce que cet écart entre riches et pauvres qui ne cesse de grandir se réduira un jour? Voici vraiment ce que je voulais montrer, notamment à travers le personnage du fils.
L'année de ses 50 ans, 2 ans après avoir déjà séduit La Croisette avec Okja, Bong Joon-ho glane la première Palme d'Or sud-coréenne et elle est plus que méritée d'une logique implacable.
Le reportage de Yann Bertrand et Parasite qui sortira le 5 juin en France. Notons également le prix de la mise en scène pour les frères Dardenne et leur film Le Jeune Ahmed. Le prix du scénario est attribué à la française Céline Sciamma pour Portrait de la jeune fille en feu. La météo de ce dimanche est un peu moins de pluie qu'hier, globalement sur tout le pays. Le ciel reste couvert sur les Pyrénées et le Massif central avec des pluies éparses. Quelques gouttes également à prévoir sur la Côte d'Azur. Le soleil, lui, s'impose sur la vallée du Rhône, mais aussi sur le Languedoc-Roussillon. Attention tout de même au vent, Mistral et Tramontane qui vont souffler jusqu'à 80 km/h. Les températures de 7 à 12 ce matin, les maximales de 17 à 24 cet après-midi.